capitaine de toutes les mers, aviateur de tous les ciels, artilleur, fantassin, cavalier de tous les pays, tué par la guerre, je vous appelle.
Verdun, un point de vue allemand.
Pétain a dit le courage, on les aura. Et on les aura, car ils n'ont pas chef comme les nôtres. Ils n'ont pas de Pétain, eux. Ils n'ont pas de Joffre, de Mangin, de Nivelles, de Castelnau, de Langle de Carry, de Lanrezac. Ils n'ont pas tous ces hommes supérieurs.
À quoi a tenu le sort de Verdun que les Allemands ont décidé d'attaquer ce 21 février 1916 ? Au mérite des chefs, Pétain y a gagné ses galons de sauveur. Nivelles aussi, qui à partir de mai a préparé les contre-offensives, mais il perdra ensuite son crédit au chemin des dames. Il reste que les principaux visages de Verdun, ce chemin des hommes, ce sont ceux des morts. D'autres moments ont été plus coûteux en hommes encore, mais Verdun demeure comme le lieu par excellence du sacrifice. Du moins du côté français, les pertes ont été comparables du côté allemand, mais dès l'été 1916, l'état-major du Reich avait tourné la page. C'est sur la Somme qu'il demanda à ses soldats les mêmes capacités de résistance que celles des Français à Verdun. Le souvenir de Verdun est dissymétrique des deux côtés du Rhin. Mais ce n'est pas un souvenir seulement français. D'ailleurs, la même photo de Mitterrand et Kohl, la main dans la main devant de Beaumont, figure dans les manuels scolaires. De part et d'autre, du fleuve le Rhin.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Gerd Krumesch, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes une des têtes chercheuses de l'historial bien connu de Péronne. Vous avez publié avec votre confrère et ami Antoine Pro, un Verdun 1916 aux éditions Talendier. Vous multipliez les entretiens ici, là. Je voudrais signaler celui que vous avez donné à l'excellent hebdomadaire 1. Vous savez, l'hebdomadaire 1, c'est une feuille unique qui se déplie comme les infolios de Naguère. Et vous étiez à Verdun hier pour prêcher et vous êtes rentré ce matin chargé comme un poilu.
Ouais, non, pas du tout comme un poilu. J'avais 20 kilos dans mon grand sac, là. Et 20 kilos, c'est un peu la moitié de ce qu'ils portaient, eux, dans leur sac. On imagine peu, quand vous avez une valise de 20 kilos, c'est une lourdasse. Mais il en portait 35.
Alors, vous avez encore fait un de ces multiples gestes d'amitié hier. Vous dites, Gerd Krumesch, c'est bien les gestes d'amitié, mais...
Mais il faut surtout comprendre... Les gestes d'amitié, c'est de l'officier, ça se fait une ou deux fois par an, et puis on repasse aux affaires. Mais ce qu'il faut obtenir, et c'est le travail en commun qui doit perdurer, c'est vraiment comprendre un point de vue de l'autre, comprendre que l'autre n'est pas venu comme une bête pour manger les enfants de France, mais qu'il y avait d'autres raisons, peut-être... compréhensible aux Français de nos jours, pourquoi les Allemands ont attaqué à Verdun, pourquoi ils ont fait la guerre de toute façon, pourquoi ils l'ont perdu.
Ben, alors pourquoi ont-ils attaqué à Verdun? On va se limiter, si vous le voulez bien, ce sera un champ d'interprétation suffisant à cette question aujourd'hui. À la fin 1915, Gerd Krumesch, la triplice, l'Allemagne et ses alliés sont en assez bonne position sur le front de l'Est, en Pologne, sur le front Sud, en Serbie. Ce sont des fronts sécurisés. C'est aussi pour ça qu'ils pensent à un grand assaut à Verdun ou à Belfort.
C'est l'alternative. Hindenburg et Ludendorff qui règnent à l'Est et qui ont remporté ces victoires que vous évoquez, demandent, insistent, qu'on en vienne à mettre encore plus de soldats à l'Est pour y gagner et puis pour renverser les fronts. Et Falkenhayn, le chef, le grand chef des armées allemandes, au contraire, il est de l'avis qu'il faut investir sur le front ouest parce qu'il est certain que la guerre se décidera là et non pas à l'Est. Et donc, il veut remettre en marche, si j'ose dire, la guerre qui s'est arrêtée dans les tranchées depuis la fin 15.
Et puis, il y a aussi un chef important sur le front ouest, c'est le Kronprinz, qu'on appelle le clown prince en Angleterre, vous savez, et le con prince en France. Mais je ne veux pas être offensant, Gerd Kruijff.
J'ai obtenu qu'on écrive correctement dans le livre qu'on a fait Antoine Pro et moi. Il y a eu des difficultés avec les éditeurs et les
correcteurs
français, avec les correcteurs français qui m'ont toujours mis un Y, il faut un I, mais ça, on les a eus.
Donc le problème n'est pas le R, mais le Y. Il est à Stenay, son quartier général est donc au nord de Verdun, et puis il a un adjoint, Knobelsdorf, qui lui souhaite aussi un développement de l'assaut très important sur ce front. Voici témoignage dans la série Les Grandes Batailles de Daniel Costel, deux lieutenants allemands de l'époque, Etigloffer et Spitz. Témoignage d'allemand, vous m'avez dit, on ne va entendre que des Français comme d'habitude. Ben non.
S'il parle français ?
Il parle français.
Très bien.
C'est ici le Kronprinz avec son quartier général. Et c'est ici qu'il a logé dans son quartier pendant 2 ans. Il avait même son état-major ici. Il avait ses chevaux, son chenil. On le voyait le matin faire des promenades à cheval dans le pays ici. Il était connu par tout le monde. On savait c'est le grand prince. Et le 11 février 1916, c'est ici que l'empereur Guillaume a passé la dernière revue des régiments avant l'attaque. Falkenhayn, Marcé, l'armée d'attaque ici sur la rive droite de la Meuse. Le Kronprinz voulait attaquer en même temps sur la rive gauche. Falkenhayn ne voulait pas.
Ah, j'ai oublié de dire que le Kronprinz, on ne parle que de lui, c'est le fils du Kaiser, bien sûr. Il n'avait pas tort d'ailleurs de vouloir, avec son adjoint Knobelsdorf, attaquer sur les deux rives.
Bien sûr, ça a été... Il ne comprenait pas pourquoi Falkenhayn ne voulait attaquer que sur la rive droite de la Meuse, s'exposant... Knobelsdorf, le chef d'état-major du Kronprinz, le dit en toutes lettres, on s'expose au tir français en se faisant. Mais Falkenhayn était convaincu que le tir préparatoire des Allemands annihilerait les positions françaises et qu'on aurait facilement raison de la résistance éventuelle et qu'on pourrait, n'attaquant que sur le côté gauche de la Meuse, n'attaquant que là, on pourrait économiser beaucoup de troupes dont on avait besoin par ailleurs.
L'artillerie surplombe et l'infanterie occupe. C'est ça la tactique allemande, qui ne décide pas d'une ruée générale, mais qui attaque point par point, groupe par groupe.
Oui, on est tellement convaincu, Falkenhayn et son entourage, de la supériorité marquée de l'artillerie allemande, qu'il était un peu à ce moment-là aussi, qu'on imaginait pouvoir anéantir les positions françaises et puis envoyer un peu les soldats... qui marchait facilement sans trouver de résistance pour obtenir le but qu'on avait. Un peu comme les Anglais quelques mois plus tard sur la Somme.
Mais dites-moi, du côté français, les positions de Verdun ou des forts attenants étaient un petit peu endormies. Le grand quartier général, c'est Joffre, à l'époque encore, au début de 1916, pense d'ailleurs que Verdun n'est pas si important que si Verdun cédait, ça n'ouvrirait pas les portes de la France.
Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi on avait non pas simplement oublié, mais on avait dégarni la place de Verdun. Et on avait enlevé les gros canons du fond du Mont.
Quand vous dites « on ».
On, c'est Joffre et son commandement supérieur.
Très bien, Gerd Kruijff.
Il n'avait pas du tout envisagé une attaque allemande parce que Joffre disait encore en janvier, quand les témoignages et les avertissements d'une attaque fulgurante sur cet endroit arrivaient sur place, il disait non, c'est une foutaise, c'est une fiction de bataille que les Allemands essaient de nous imposer. Ils vont attaquer ailleurs. Ils n'ont aucune raison de nous attaquer à Verdun avec tous ces ravins et côtes. C'est trop compliqué pour étayer une grande armée.
Mais il y a un aspect politique dans le choix qui est fait par les Français de défendre coûte que coûte Verdun, parce que la perte serait grave symboliquement. Et puis, la résistance, vous le dites, elle est facilitée par le côté entaillé, il faudrait entrer dans le détail, de la région, où on peut tenir des poches aisément.
Oui, Verdun a la particularité par rapport aux autres grandes batailles qui suivront, la Somme et ailleurs, que c'est un corps à corps. Un corps à corps avec des positions qui sont à une distance de 20 mètres à 50 mètres où on voit l'ennemi, il y a des interventions, non pas à la baïonnette, mais au couteau et à l'appel. À l'appel. Et tout ça se déroule sous le feu à distance. Donc, pour comprendre Verdun, il faut comprendre cette énormité du feu à distance avec ce corps à corps archaïque qui n'a plus eu lieu d'une façon significative sur la Somme à Ypres et plus tard sur Michael.
La résistance française fait que, au mois de mai, la situation est encore incertaine et que plus tard, Falkenhayn devra donner des explications du fait qu'il est mis en échec. Et l'explication habituelle, on retrouve notre compère de tout à l'heure, Spitz, le lieutenant allemand, c'est Verdun, c'est une pompe à sang et c'est volontaire.
Eh bien, pourquoi Verdun ? Nous, les Allemands, nous voulions terminer la guerre en 1916, naturellement, avec une victoire. Le chef du quartier général, le général von Falkenhayn, voulait saigner l'armée française. Il se dit, l'armée française ne quittera jamais un drapeau qu'on lui donnera à défendre. Jusqu'à la dernière goutte de sang, un drapeau, ça ne se quitte pas, ça se défend. Il faut donner à l'armée française une forteresse à défendre, une forteresse qu'elle défendra jusqu'à la dernière goutte de sang. Et on a fait le plan pour l'opération Grand Jugement. C'était l'opération sur Verdun.
Alors, Falkenhayn aurait dit à ses supérieurs, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est volontaire, il faut saigner les Allemands, ou bien c'est une reconstitution à laquelle il a procédé plus tard pour expliquer son échec.
C'est une reconstitution à laquelle il a recouru plus tard. Pétain l'avait du reste dit dès 1929 dans son Verdun que cette explication par Falkenhayn c'est une excuse de quelqu'un qui a échoué. Et nous avons établi, je pense, Antoine Pro et moi dans notre Verdun, qu'il faut prendre en compte ce soi-disant mémoire de Noël 1915 de Falkenhayn qui prétend avoir passé au Kaiser et expliqué au Kaiser vers Noël 1915 qu'il voulait nullement obtenir une victoire devant Verdun mais juste saigner les Français.
Vous voulez même dire que c'est un faux ?
C'est un faux. C'est un faux et
c'est rédigé après coup.
C'est rédigé,
bien après on sait Noël pas 15. Bien,
pour ses mémoires et pour ses excuses. Jamais aucun exemplaire authentique n'a surfacé. Jamais on a posé la question à tous les responsables dans les années 20. Les archivistes du Reichsarchiv ont posé la question au Kronprinz à Tappen, donc le chef d'état-major du Kronprinz, à Knobelsdorf, au Kaiser lui-même. Personne n'avait jamais entendu parler. En revanche, j'ai découvert dans le journal de Emich, donc le général qui a dirigé les troupes sur la rive gauche à partir de mars. Le 15 mars, il note que Falkenhayn commence à parler d'une saignée et que ça lui signifie pour lui, le 15 mars, que Falkenhayn ne compte plus obtenir un succès. Déjà aussitôt, il y a des responsables qui se rendent compte de cet échappatoire de Falkenhayn.
Pétain, puisque vous parliez de lui, a été nommé par Joffre fin février sur le front directement. Il restera en position à Verdun jusqu'au 1er mai, Nivelle le remplacera sur place sous l'autorité lointaine dorénavant du général Pétain. C'est une bataille qui se déroule sous le feu de l'artillerie mais dans le corps à corps où on utilise aussi les armes chimiques, où la question de l'accession du matériel au front va être centrale. La voie sacrée mise au point par les Français, c'est une des batailles les plus raconté. Vous dites que Quand on publie le livre de Genevoix qui se passe aux éparges pour le faire vendre, on met en dessous « sous Verdun », c'est la métaphore du sol français et c'est chanté très souvent aussi.
Ennemis s'avancent avec rage, énormes flots d'un vivant océan, semant la mort partout sur son passage, ivre de bruit, de carnage et de sang. Ils vont passer en relevant la tête, un officier dans un suprême effort. Quoique mourant, pris à la baïonnette, hardi les gars, debout, debout les morts. Et Verdun, la victorieuse, tout un cri que porte là-bas, les échos débordent la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Plus d'arrogance, puis est barbare dès la queue. C'est ici la porte de France. Et vous ne passerez jamais.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Douaumont, le village est pris le 2 mars par les Allemands, repris le 3 par les Français, reperdu le 4. Le fort, enlevé par les Français le 22 mai, repris par les Allemands le 25, reconquis par nos soldats le 24 octobre.
Verdun, point de vue allemand, avec Gerd Kremesch qui vient de faire paraître chez Talendier un livre avec son compère Antoine Pro. On les retrouve aussi, notamment dans les colonnes de l'hebdomadaire Le 1, numéro spécial XL sur Verdun. Debout les morts, c'était une chanson collection Martin Pennet de Jules Wolf. Debout les morts, les pertes sont comparables du côté français et du côté allemand. Les pertes, c'est pas la même chose que les morts.
Oui, mais les pertes sont également comparables. Ils étaient tous sous le même feu, parce que l'artillerie française était rapidement renforcée et en fin de compte, vers le 15 mars, et à partir de là, c'est le feu terrible des deux côtés pour tous les soldats. Donc, pour les pertes, on voit les mêmes chiffres, 350 000, et des deux côtés, chacun. Et pour les morts, le compte que nous avons fait, il est assez original. Antoine Pro est un grand compteur, et il a fait vraiment une excellente analyse des pertes pour la Première Guerre mondiale dans son ensemble, et les chiffres que nous avons pu extraire, ce sont 142 000 de morts côté allemand, 147 000 morts côté français.
On peut comptabiliser, mais l'expérience des batailles est incommunicable. Si vous voulez bien, on va s'arrêter maintenant à la situation fin mai, début juin. Elle est encore incertaine. La victoire française est loin d'être assurée. Et je vais vous faire part d'une restitution que nous avons faite à la Comédie française, au Vieux Colombier. On va entendre l'un des comédiens français qui participe à ces travaux pratiques, Bruno Raffaelli. Il est dans le rôle d'André Maginot. La Chambre des députés s'est réunie le 16 juin à Paris en comité secret pour s'inquiéter de ce qui se passait à Verdun et d'une certaine incapacité du grand quartier général de Joffre.
L'affaire de Verdun a révélé à quel degré d'impréparation pouvait conduire l'imprévoyance et la passivité de notre haut commandement. C'est que l'affaire de Verdun a failli constituer pour nous un gros échec. Et que seule l'admirable résistance de nos soldats...
Bravo !
L'admirable héroïsme de nos soldats empêcher et empêche encore cet échec de se produire. L'héroïsme des uns est arrivé à contrebalancer l'imprévoyance des autres.
Parfaitement.
Se laissant devancer en toutes circonstances, incapable de jamais imposer sa volonté à l'ennemi vivant au jour le jour, sans méthode et sans plan, continuant à croire au miracle, à compter sur lui comme sur tous les facteurs étrangers à son propre effort,
oui, oui,
nous occasionnant par sa négligence et par ses fautes de lourdes pertes, sous les apparences de ménager le sang de la France, notre haut commandement a fait suffisamment ses preuves et il ne nous est plus possible de les lui laisser continuer.
Oui.
Les parlementaires français contribueront beaucoup, mais tardivement, ça va pas se faire de suite, à la chute de Joffre. Tandis que, en Allemagne, le remplacement par Hindenburg et de Ludendorff de Falkenhayn, il a lieu dès l'été 1916. En même temps, une séance de critique ouverte comme celle qui a eu lieu au Palais Bourbon à Paris était-elle possible à Berlin?
Elle était possible dans les commissions, parce que le Reichstag ne siégeait pas pendant la guerre, mais il y avait aussi dans les commissions, un peu comme en France, où on discutait de tout. Mais le Reichstag, à l'encontre du Parlement français, n'avait aucune capacité de décision, aucune. Donc, il pouvait faire des propositions, mais il n'avait pas la compétence des lois et des ordres qui émanaient du seul chancelier d'accord avec le Kaiser. Et comme le Kaiser était le supérieur unique des armées, par le principe, le Reichstag pouvait dire ce qu'il voulait.
Donc en 1916, on s'oriente vers un régime de plus en plus autoritaire en Allemagne.
Absolument.
Plus qu'en France.
C'est beaucoup plus, oui. J'ai un peu l'impression que dans la mesure où la guerre avançait, la démocratisation a progressé en France et l'impact du Parlement avec ses commissions et d'investigation a toujours à nouveau agrandi. Tandis qu'en Allemagne, le Parlement a été de plus en plus supprimé par l'impact de Hindenburg surtout, qui était père de la nation, et on le croyait. Il a estompé complètement le Kaiser aussi, Hindenburg.
L'été 1916, la page est tournée pour l'état-major allemand, la page Verdun, et l'enjeu, ça va être la Somme, et pour les uns et pour les autres. La bataille de la Somme, c'est pour les Français une bataille conjointe avec les Anglais et les sujets de l'Empire britannique. Et pour les Allemands, il s'agit de donner la preuve d'une égale résistance à celle des Français manifestés à Verdun. Et la Somme va coûter plus en hommes.
Oui, beaucoup. Beaucoup plus en hommes. Mais la grande différence entre Verdun et la Somme, c'est en effet le fait que les Allemands étaient là depuis 1914, ils s'étaient installés sur la Somme, ils avaient bien organisé des positions défensives, les forts et les bunkers et les blockhaus, et c'était imprenable. Et ils étaient surtout convaincus qu'ils étaient à la défense. À l'encontre de Verdun, où personne ne parlait de défense, mais d'offensive et d'avance pour finir la guerre, et ce qui enthousiasmait les soldats, sur la Somme, l'idéologie était simple. On ne passe pas.
Mais dites-moi, pour la mémoire, parlons rapidement de la mémoire maintenant. La Somme, c'est plus important pour les Allemands que Verdun. Verdun, c'est beaucoup plus important pour les Français parce qu'au fond, les bénéfices que l'armée a pu tirer de la bataille de la Somme sont très modestes. Et en plus, il faut les partager avec les Français et les sujets de l'Empire. Et pour la mémoire collective, c'est pas très commode.
Non, c'est pas très commode. Et la mémoire allemande a fait des soubresauts dans les années 20-30. Et c'est très compliqué. Nous avons essayé de restituer aussi ce fait des convulsions, des révolutions de cette mémoire qui, Verdun, la Somme, tout a été étouffé par Versailles d'abord. On parlait très peu de la guerre. Il n'y avait pas un culte de mort affranchi des litiges politiques. Donc il y a eu une guerre de tranchées de la mémoire aussi chez nous. Et puis est venu le moment 1933 et une nazification, si j'ose dire, du souvenir de la Première Guerre mondiale, où soudainement Verdun est intervenu comme la guerre propre, comme la guerre qu'il faut venir. Et sur Verdun, où on a attaqué, où on a avancé, où on ne s'est pas recroquevillé dans les tranchées comme sur la Somme, c'était l'idéologie nazie du soldat activisé. Avec ça, donc le souvenir de la Somme s'est complètement estompé.
Il faudrait raconter dans le détail le rassemblement des anciens combattants des deux pays en 1936 à Douaumont, oublié du côté français parce que ce rassemblement avait mêlé des pacifistes et des nazis. Il faudrait raconter l'anniversaire de 1966 où le général de Gaulle, qui a participé au combat à Douaumont, y a été fait prisonnier, a rendu un bref hommage au maréchal Pétain et a dit ensuite ceci sur le rapport nouveau qui s'établissait avec l'Allemagne.
La leçon que nous enseigne Verdun s'adresse aux deux peuples. Ces deux peuples voisins et qui se complètent l'un l'autre voient s'ouvrir devant eux. Maintenant, la carrière de l'action commune fermée depuis qu'à Verdun même, il y a 1123 ans, se divisa l'empire de Charlemagne. Cette coopération directe et privilégiée, la France l'a voulu, non sans mérite, mais délibérément. Quand elle concluait en 1963 avec l'Allemagne un traité plein de promesses, elle y est prête encore aujourd'hui.
1966, de Gaulle n'a pas invité le chancelier Erhard à Verdun. Venons-en maintenant à 2016, puisque vous rentrez de la ville de la Meuse et qu'on vous y a parlé, Gerd Krumesch, des préparatifs de la rencontre Angela Merkel-François Hollande le 29 mai prochain. De tous les bosquets vont surgir des enfants, bien sûr.
Oui, on ne sait pas encore très bien ce qu'ils vont faire précisément. Ils vont inaugurer officiellement le nouveau mémorial qui a comme dénomination nouvelle, pas encore tout à fait officielle, mémorial franco-allemand, c'est sensationnel ça. Le mémorial de Fleury, fait par les anciens combattants français, pour les anciens combattants français, inauguré en 67 comme dernier résidu de cette mémoire des anciens combattants, va tomber un mémorial franco-allemand. C'est vraiment...
Mais parlez-moi des enfants.
J'en reviens pas de ce développement inespéré il y a 10 ans.
Mais parlez-moi des enfants. C'est Volker Schlumdorff qui va les mettre en scène.
En 1996, avec quand Chirac est venu à Verdun, au Douaumont, l'office franco-allemand de la jeunesse avait amené 2000 enfants dans des chemises blanches, des petits, de 6 à 10 ans. C'était beau. Pour qui a pu voir ça, c'était inoubliable. Dans ce paysage de la mort, dans les cimetières militaires, les enfants qui jouaient, qui s'amusaient, qui ne savaient pas qu'il y avait ce qu'est que la mort, on leur avait peut-être dit, ils n'avaient pas retenu, ils couraient. C'était formidable, cette victoire de la vie sur la mort.
Et ils seront 4000 là, le 29 mai, les enfants.
Oui, je m'en réjouis, c'est une excellente idée.
Gerd Krumesch, avec Antoine Pro, Verdun 1916, chez Talandier, votre participation commune au numéro Le 1, numéro spécial Verdun, la réouverture au public du mémorial franco-allemand, c'est dit entre parenthèses, de Verdun, puis sur notre site, beaucoup d'autres informations. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Iline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation. À la réalisation, donc je l'ai dit, Jacques Sigal, et à la technique, je ne vais pas le dire deux fois, Kevin Pelot aussi, allez, Kevin Pelot.